Podcast. CQFD.
Ce qui fait débat ce soir, c'est cette question. Donc, est-on en train d'assister au retour d'un climat proche de celui des années 30 ? Crise financière, dépression économique, méfiance vis-à-vis des élites, montée des populismes, tensions internationales. C'était le climat qui avait finalement abouti au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. D'où inquiétude. Alors, y a-t-il vraiment des traits communs ? Quelles sont aussi les différences ? On va en parler ce soir avec une invitée. C'est Chantal Questelot, historienne au CEGES. Bonsoir.
Bonsoir.
Le CEGES, le Centre d'études et de documentation guerre et société. Contemporaine.
Ce qui fait débat.
Alors Chantal Questelot, je reprends cette petite énumération, hein, crise financière, dépression économique, cette méfiance aussi vis-à-vis des élites qui se traduit par une montée du populisme. On est quand même tenté de comparer, non, avec ce climat qui régnait dans les années 30.
Effectivement, je crois qu'il y a des convergences et je crois que la comparaison est toujours utile et toujours bénéfique en histoire. Là où peut-être la comparaison s'arrête, c'est quand on est dans l'analogie pure et simple. Et ça, je crois que là, on est dans un registre différent. Et donc, à l'historien, à la fois de montrer, effectivement, dans des conditions de fragilité, les sociétés, les individus cherchent des boucs émissaires à l'intérieur, à l'extérieur. Et donc, on essaye de voir comment, pourquoi en est-on arrivé là, quels sont les coupables. Et effectivement, il y a des éléments qui prêtent à la comparaison, la situation économique difficile, la démocratie qui paraît fragilisée, des hommes et des femmes politiques dans lesquels on n'a plus trop confiance. Donc ces éléments-là, je dirais, plaide pour une comparaison. D'autre part, je dirais qu'il y a aussi toute une série d'éléments qui montrent qu'on est quand même dans un contexte extrêmement différent. D'abord, on est 80 ans plus tard, donc il ne faut jamais oublier le prisme du temps. On est dans une autre époque, dans une autre culture, on est dans une période où l'internationalisation est devenue le maître mot. Dans les années 30, le repli sur l'espace national reste extrêmement fort. Hein. Juste peut-être un petit exemple, la dévaluation du franc belge 1936, c'est un enjeu qui est géré au niveau de la Belgique. Aujourd'hui, lorsqu'on a une crise monétaire, eh bien, on a l'euro, on a des éléments européens qui entrent en jeu, et donc les États nationaux n'ont plus, je dirais, le même pouvoir de décision. Autre aspect qui incite quand même, je dirais, à être peut-être plus réservé, dans les années 30, on a cherché une série de réponses, on a construit un rôle social de l'État, on a construit une série de garde-fous que l'on a encore approfondi après la Seconde Guerre mondiale. Donc ces garde-fous, ils existent aujourd'hui là où ils n'existaient pas dans les années 30. Donc, je dirais, à la fois, c'est intéressant et c'est stimulant, mais il faut quand même rester, je dirais, comparaison n'est pas raison, comme dit l'adage populaire, et je crois que, dans le cas présent, il se justifie pleinement.
Alors, quand même, Chantal Questelot, vous pointez deux éléments qui sont intéressants en disant que là, on était encore à une échelle très nationale, là où c'est beaucoup plus globalisé. On a une Union européenne, par exemple, pour ce qui nous concerne, ça, c'était pas du tout le cas dans les années 30, mais en même temps, on a l'impression qu'on le ressent quand même, ce repli national. Cette tendance plus souverainiste qui s'exprime dans différentes tendances politiques dans plusieurs États membres de l'Union européenne. Et vous parlez des protections sociales. Certes, elles sont beaucoup plus importantes que ce qu'elles l'étaient à l'époque, mais beaucoup dénoncent le fait qu'elles sont un peu affaiblies aussi par des choix politiques, notamment d'austérité, etc. Donc on a quand même l'impression que, même si on est dans un climat très différent, il y a quand même des tendances qui peuvent s'en rapprocher.
Alors effectivement, il y a, comme vous le soulignez, des tendances qui font, on a l'impression qu'il y a une série de similitudes, de fragilités. Maintenant, je crois qu'il faut dépasser, je dirais, le simple registre des années 30 qu'on agite un petit peu comme un épouvantail. Je crois qu'à chaque phase où il y a des mécanismes de peur, des mécanismes de fragilisation, on assiste au même type de phénomène. On a connu ça sous l'Ancien Régime, on a pu connaître ça avant la Première Guerre mondiale, et dans la chronique qui nous a précédé, on soulignait encore aussi les convergences avec la période de la guerre froide. Donc je crois que à chaque fois que l'on est dans des périodes de tension, il y a effectivement cette idée, comment est-ce qu'on peut essayer d'en sortir ? Quels sont les mécanismes qui sont à notre disposition et qui peut-on pointer comme ennemi ? Mmh. Et ce qui me frappe quand même dans cette espèce de, je dirais, d'épouvantail des années 30 qu'on nous avance de manière si récurrente, c'est qu'au fond, on focalise, je dirais, de manière assez unilatérale sur l'aspect montée de l'extrême droite, danger du nazisme, et effectivement dans un discours qui va, ben, finalement, si on est dans un scénario similaire aux années 30, ben, l'issue, c'est la guerre. On oublie aussi un petit peu trop vite, me semble-t-il, que dans les années 30, il y a, je dirais, ce qu'on appelle une double menace qui est ressentie très fort aussi par les élites, et cette menace du communisme, aujourd'hui, on a un peu tendance à complètement la dégommer.
Il n'y avait pas que la menace de la montée de l'extrême droite et du nazisme, il y avait aussi le
communisme. Je dirais que la menace de l'extrême droite et la montée de l'extrême droite, elle est absolument à mettre en parallèle avec cette présence du communisme, cet ennemi qui est là véritablement omniprésent. On est également dans une société où l'idée de guerre reste quelque chose, malgré tout, très très présent. Il ne faut pas oublier, dans les années 30, on est à une quinzaine d'années de la Première Guerre mondiale, donc avec des sociétés, des personnes qui ont vécu dans leur chair la Première Guerre mondiale. Donc ça implique aussi une série de réactions, à la fois dans l'idée la guerre reste une issue possible, c'est la réponse des totalitarismes, et aussi une espèce de pacifisme à tout craint où on veut absolument éviter la guerre à tout prix, ce qui explique aussi l'attitude d'un certain nombre de démocraties. Aujourd'hui, on est quand même dans des sociétés, en tous les cas de ce côté-ci, de l'Europe occidentale, qui depuis 70 ans vivent dans un monde de paix, et donc je dirais que les références sont aussi là fondamentalement différentes.
Il y a quand même aussi le phénomène du bouc émissaire. À l'époque, on a un antisémitisme qui est très très fort, par exemple. Aujourd'hui, on a l'impression que cela se concentre à la fois sur les réfugiés pointés du doigt par une série de formations justement populistes et aussi avec un discours très très dur vis-à-vis de l'islam porté aussi par certaines formations populistes ou formations d'extrême droite quand les deux ne se confondent pas, attisés en plus par le phénomène terroriste. Est-ce que là, on ne retrouve pas quand même un phénomène similaire en pointant le fait que l'antisémitisme semble regagner aussi d'ailleurs du terrain aujourd'hui chez nous ?
Mais je crois que dès lors que l'on a affaire à des groupes qui construisent des discours sur l'exclusion de l'autre, on a effectivement des mécanismes similaires. L'autre, ça peut être le juif, ça peut être le communiste, ça peut être l'étranger au sens large. Aujourd'hui, l'autre, ça peut être effectivement le réfugié. Donc là, effectivement, il y a des continuités, je dirais, dans la construction de discours d'extrême droite, de discours d'exclusion, mais des continuités qui ne se limitent pas aux années 30, que l'on retrouvait déjà dans les années 20, que l'on retrouve également dans les années 60, dans les années 70, au moment de la crise économique. Donc je dirais que là, on a véritablement des mécanismes de continuité où la peur guide un certain nombre de discours. Et donc effectivement, les années 30 nous paraissent sans doute le référent le plus emblématique parce qu'on aime agiter cet épouvantail. Je dirais qu'il y a aussi un levier politique dans l'utilisation de ces années 30, dans l'utilisation de la guerre comme d'un épouvantail pour asseoir le credo démocratique. Mais je crois que ces mécanismes sont des mécanismes beaucoup plus larges, beaucoup plus répandus et qui ne se limitent pas aux années 30.
Dernier élément, alors Chantal Kestelot, c'est difficile de parler à un historien, une historienne de futurologie, mais est-ce que dans les années 30, on sentait venir le péril de la dégradation qui va aboutir finalement à la Seconde Guerre mondiale ? Ou bien est-ce qu'on avait tendance à penser, comme on le pense souvent aujourd'hui, que les mécanismes de l'état de droit, par exemple, étaient suffisamment forts pour éviter qu'on puisse en arriver à de telles extrémités ?
Alors je crois qu'on le sent quand même très fort venir. Et même au niveau de l'État belge, à partir de 1935, on distribue aux fonctionnaires un livret de mobilisation civile, que faire en cas d'une nouvelle invasion. Donc c'est bien l'idée qu'il y a une prise en compte de l'idée qu'une guerre est une option envisageable. Donc évidemment, on est toujours dans l'idée, on espère que la guerre ne passera pas par soi et que l'on va tout faire pour éviter ça. Mais néanmoins, on est véritablement, certainement à partir de 1935-36, la guerre d'Espagne, je dirais, il y a toute une série d'éléments extrêmement importants, on est dans l'idée d'une hypothèse de guerre qui devient de plus en plus réelle.
Eh bien, merci Chantal Kestelot d'être venue nous rappeler ces éléments-là, ces comparaisons et puis les limites aussi de ces comparaisons. Il est 18h dans un petit instant, le journal avec Sophie Brems.